du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, l'émission va rendre hommage à un personnage très connu, un acteur du jazz, quelqu'un d'éminent, et qui a quitté cette planète. Dans le jazz, on dit qu'il a replié son ombrelle, le 2 décembre dernier.
Et ça valait la peine de faire quelque chose pour lui, en parlant de lui. D'abord parce que c'est un personnage qui a un fort caractère, qui avait, voyez, j'ai du mal à dire autrement, qui avait un fort caractère.
Ah oui, ça, question caractère, il était extrêmement bien équipé. Il s'agit de Jacques Morgantini. Jacques Morgantini, vous ne savez sans doute pas à qui vous avez affaire. C'est quelqu'un qui était né en 1924 et qui nous a quittés en 2019, donc, à l'âge de 95 ans. Et je peux vous dire qu'à 95 ans, côté oreille et côté cervelle, ça fonctionnait très bien.
Toute sa vie, ça a été le jazz. Quoique, il ait bien été obligé, comme tout le monde, de faire un métier alimentaire. Mais le jazz, sa passion, sa volonté, véritablement, on pourrait presque dire que c'était un homme jazz.
Jazz et blues. En fait, il a découvert le jazz très jeune, puisque c'était en 1938, tu vois, ça ne nous rajeunit pas. Il a eu de la chance, parce que son père était dans l'électronique de l'époque, dans le pick-up, dans tout ce qui était le son.
La radio, quoi.
Et donc les disques qui, à l'époque, on vous le rappelle, tournaient en 78 tours et ne comportaient qu'un seul morceau par face.
Eh oui, ça vous semble l'antiquité, hein ? Et pourtant, c'était, à la limite, pas si loin que ça. C'était pas il y a 500 ans.
Non, mais ça avait un très gros avantage, parce qu'on pouvait écouter de manière différente en remettant énormément le couvert et en se plongeant dans la musique.
Oui, un disque, c'était un peu comme on offrait une petite bague ou une montre. C'était très précieux. On l'écoutait, on le réécoutait. Il y a même des gens qui l'écoutaient tellement que peu à peu, l'aiguille, elle perçait le disque. Vous vous rendez compte ?
Vous êtes sûr de ce que vous dites, là ?
Absolument.
Et quand on voit à quel point Jacques Morgantini a été attiré par le blues, par la facette blues du jazz, on se rend compte qu'au fond, ce qui l'a happé, c'est ce qu'il y a de plus profond dans cette musique-là.
Quand j'ai entendu ça, j'ai été absolument écrabouillé. Et je n'ai eu qu'une envie, qui persiste encore maintenant, c'est d'écouter du jazz, d'écouter, comprendre comment ça se passait, cette musique qui venait des États-Unis. Je ne savais pas grand-chose à ce moment-là.
Et bien sûr, il a occupé des fonctions autour du jazz, pour le jazz, avec le jazz. Il a été très longtemps vice-président du HCF, c'est-à-dire le Hot Club de France.
Dont le président était,
bien sûr, Hugues Panassier.
Il a donc été en quelque sorte son bras droit. Il a beaucoup collaboré avec lui pour l'établissement de certains ouvrages, comme la discographie critique, ouvrage célèbre, ouvrage de chevet. Et Morgantini, c'était un hyperactif. C'est pour ça qu'à peine la guerre terminée et les contacts avec l'Amérique rétablis, il a cherché à quel endroit on s'occupait de jazz. Et c'est comme ça qu'il atterrit au Hot Club de France.
Alors tenez-vous bien, il a été chroniqueur, chercheur, historien et producteur. Hein, on ne peut pas être plus complet.
Il a aussi été organisateur de tournées. Et là, il faut souligner que le Hot Club de France a été la première association à faire venir des bluesmen en Europe. Et Morgantini participait à cette organisation-là. Il a été directeur artistique et superviseur de séances d'enregistrement très nombreuses. Là, il a été associé pendant longtemps au label Black & Blue, à l'organisation Black & Blue, puisque c'était tournée et enregistrement. C'est la marque française qui a le plus enregistré de jazz. Et quand on dit de jazz, c'était du jazz, hein, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, parce que la plupart de la musique de ce soir provient des disques Black & Blue.
Il parle à du blues comme personne. Et d'ailleurs, on va lui laisser la parole.
Ce sont souvent des histoires de gens qui ont souffert de ça. Parce qu'il y a également le préjugé de race qui est souvent sous-tendu dans bien des blues. Et qu'est-ce qu'ils font pour que ça passe à la censure, ces Noirs ? Ils sont d'une astuce formidable, souvent. Ils ont trouvé ce qu'ils appellent le double talk, c'est-à-dire une double manière de parler. C'est-à-dire sous un dehors innocent, il y a dessous le vrai sens qui est pigé par les initiés, par les Noirs qui savent de quoi ils parlent. C'est leur vie aussi. C'est leur vie qui est racontée. Le blues n'est jamais pleurnichard. C'est jamais le genre, ah mon Dieu, le blanc il m'a botté le cul, que je suis malheureux, etc. Jamais ça. Il en parlera peut-être d'une manière détournée, mais il trouvera toujours une astuce au dernier chorus pour prouver qu'il n'est pas dupe et qu'il a surmonté ça. C'est ça aussi la grandeur du blues. C'est sa formidable dignité.
Comme vous pouvez imaginer, la vie de Jacques Morgantini l'a amené à rencontrer, à côtoyer, à fréquenter, à recevoir d'innombrables musiciens et à comprendre comment ces artistes-là fonctionnaient.
Oui, parce que c'était pas du tout évident pour un Européen de rencontrer des gens dont les grands-parents avaient vécu l'esclavage. Nous, on n'a pas connu ça. On ne savait pas comment c'était. Et c'était passionnant parce que lui, il les faisait parler. Quelquefois, s'il voyait que ses amis ne parlaient pas, il les faisait jouer. C'était une manière de les comprendre. C'était leur manière à eux, quelquefois, de s'exprimer.
Le vrai blues des anciens troubadours du sud des États-Unis, ceux qui se baladaient avec une guitare sous le bras, qui jouaient de bourgade en bourgade, hein, pour être simplement le témoin de la communauté noire. Il s'adresse à des noirs. Qu'est-ce qui intéressait ces noirs? Illettrés. Mais ce n'est pas péjoratif. Illettrés, on ne leur avait jamais appris ni à lire ni à écrire. Illettrés, donc le seul moyen, c'était la tradition orale. Et ces chanteurs de blues ruraux du sud des États-Unis sillonnaient les communautés noires du sud et avec leur guitare racontaient les événements qu'ils avaient vus, ce qui les avait impressionnés, ce qui les avait touchés, ce qui les avait indignés. Le traitement, par exemple, du maître blanc sur la communauté noire. Et ces chanteurs étaient absolument inconnus en Europe des amateurs.
Les trois interventions de Jacques Morgantini, à l'époque, il avait, je pense, 92 ans, ont été enregistrées chez lui et sont incluses dans un DVD qui est, à mon avis, quelque chose de fondamental pour comprendre les rapports, d'abord, que ce personnage un peu hors série a eu avec ses amis musiciens, mais aussi pour comprendre les musiciens tout court. Et je peux vous conseiller, donc, si vous voulez vous le procurer, il faut simplement, sur Google, faire « Mémoire de blues ». Là, vous trouverez votre bonheur, il n'y a plus qu'à suivre. Ce soir, nous allons rendre hommage à Jacques Morgantini au travers des morceaux que les musiciens les plus divers ont tenu à lui dédier. Voilà, c'est tout. On va laisser parler la musique. Et il s'agit des plus grands noms.
Eh ben voilà, écoutez bien. Lionel Hampton dans Shuffling for Jacques.
Enregistré par une petite formation que Lionel Hampton avait constituée avec d'anciens membres de son grand orchestre. Alors là, il y a du beau monde, hein. Il y a Cat Anderson à la trompette, dont on a souvent parlé ici, Milt Buckner au piano, enfin les Hamptoniens.
Et maintenant, un certain Eddie Chambly. D'abord, c'est un très bon musicien, mais aussi il a une caractéristique. Il était l'époux de la très formidable, mais très impossible, Dinah Washington. Fallait assumer, hein.
Ah oui, là, il fallait assumer, et je peux vous dire que le pauvre Eddie Chambly, il a, à mon avis, été mis à toutes les sauces par cette diva, au caractère vraiment impossible, il faut vraiment le dire. Mais vous n'entendrez pas Dinah Washington, ce sera pour une autre fois. Là, vous allez entendre un morceau qu'Eddie Chambly a dédié à Jacques Morgantini, et alors le titre est assez amusant, parce qu'il peut être interprété de deux façons.
Le titre, c'est « Jacques, that's the blues ».
Alors, vous pouvez imaginer que soit, qu'est-ce que c'est ce morceau, Eddie ? Et il a, mais Jack, c'est le blues. Ou bien, une fois le morceau terminé, pour moi, c'est le plus probable, c'est, Jack, hein, c'était le blues.
Bye.
Et bien sûr, on n'est pas un amateur musicien complet si on ne sait pas faire partager le jazz à d'autres. Et surtout, à des gens qui ne connaissent pas forcément très bien, donc à des stagiaires. Et ça, Jacques Morgantini, il avait vraiment un don pédagogique pour l'apprentissage. Et alors, il le faisait d'une manière assez amusante. Il mimait la musique pour mieux la faire comprendre.
Parce que la musique, un bon arrangement, un bon solo, c'est aussi une histoire qui se raconte. Et cette histoire, on ne peut pas la raconter avec des mots. Elle se raconte très bien avec des notes. Mais elle peut se mimer. Et ça, ça a tellement frappé le guitariste Tiny Grimes qu'il a tenu à enregistrer un morceau qui s'appelait
Morgantini with Mime.
Le mime, eh bien, si vous voulez descendre dans le jazz, pénétrer le jazz, choisissez un disque que vous aimez et passez-le plusieurs fois comme ça, en essayant de le mimer. Puis quand vous êtes arrivé à quelque chose, vous faites venir la famille et vous lui dites « Écoutez la musique et regardez ce que je fais. » Et vous allez voir, peut-être vous la comprendrez autrement. Voilà, enfin si vous savez mimer, ne vous gênez pas. Et voici maintenant un autre guitariste qui s'appelait Roy Gaines, qui a été connu très jeune grâce à un disque célèbre de Jimmy Rushing, et qui montre que les titres des morceaux sont souvent liés à des circonstances tout à fait ponctuelles.
Allez, essayez de deviner. Quand est-ce que tout le monde se réunit autour de quelqu'un ? Non, non, c'est pas quand il est mort, hein, attention. Non, c'est souvent à l'occasion de son anniversaire. Et c'est ce qui s'est passé. Happy birthday, Jack. C'est le nom du morceau.
Et voilà, lors d'une séance Black and Blue qui s'est certainement passée le jour où notre ami Morgantini avait un an de plus. Thank you.
nous a dit que Morgantini, il organisait des concerts et des tournées. Mais parfois, ça se passait, je dirais, dans son petit chez-lui, à côté de Pau, au coin du feu. Et bien ce soir-là, la vedette, c'est Sister Rosetta. Enfin, et bien sûr, ben c'est le gospel. Et du coup, la Sister, elle dédie le morceau suivant, qui est une ode au dynamisme et à la constance dans l'effort, et bien le lui dédie. Et ça s'appelle « Go ahead », ce qui veut dire « Eh ben vas-y mon gars !»
Ils étaient bien faits pour s'entendre, ces deux-là, parce que la Sister, qu'on a bien connue, c'était une forte tête.
« Go ahead !»
This one mama like, for mama and papa, for Jack, as the vice president of the Hot Club de Jazz, the greatest in the world. Can I sit down, Mr.? When it seems all help is gone, we go ahead. God will take us in his arms. Go ahead. Oh yes. It makes no difference what the people say. We keep on down on our knees and pray. We'll find a brighter day. Go ahead. Go ahead, Mama, Papa, Brother Jack. Go ahead. You keep on smiling, keep on praying, and go ahead. Oh yes, you may be up, then you may be down, sometimes almost to the ground. But oh, don't give up, please don't turn around. Go ahead. When your friends turn their backs on you, go ahead. And some may persecute you, don't mind. Go ahead. Oh yes, try to do this. Meet your troubles, meet them with a grin, like you do. Grit your teeth, say, by the grace of God, I win. And all you will, your crown you'll win someday. Go ahead. Yeah, you go ahead. Keep on singing, keep on smiling, and go ahead. There's a brighter crown somewhere. Your troubles, meet them with a grin, grit your teeth, and say, by the grace of God, I'll win. Oh, he'll go with ya, he'll help ya, he'll protect ya, he will guide ya, he will lead ya through hard trials. You go ahead.
Vous savez que souvent, à côté d'un grand homme, il y a une femme.
Je ne vous le fais pas dire.
Eh bien, la femme de Jacques Morgantini, s'appelait Marcel et était aussi fondue de blues que son époux. Eh bien, elle va partir. Non pas toute seule, mais avec son fils. Vous voyez, c'est très famille tout ça. Et elle va aller enregistrer des inconnus qui sont encore des amateurs à ce moment-là.
Et elle va les enregistrer là où le blues est le plus vivace, la capitale du blues, à Chicago. Parce que figurez-vous que les musiciens venus chez elle à l'occasion de tourner en France ont parlé au Morgantini d'autres musiciens qui, selon eux, méritaient largement d'être plus connus et qui étaient totalement obscurs et connus uniquement dans leur quartier. Ça stimule Marcel Morgantini qui dit à son époux, c'est pas tout de les recevoir et de les faire venir d'Amérique, il faut aller là-bas pour enregistrer les gens qui en ont besoin et leur mettre le pied à l'étrier.
Et c'est ce qu'elle a fait.
Et non seulement elle est allée enregistrer avec un très bon matériel et avec l'assistance de Morgantini Junior, mais en plus elle a fondé un label de disques qu'elle a appelé MCM, du nom de ses initiales. C'est une production absolument remarquable, originale naturellement. Et on y trouve en particulier un très bon musicien, Magic Slim, et qui grâce à ces disques-là, mais il n'a pas été le seul, a pu venir en France, en Europe et acquérir la notoriété.
Mais quand elle a fait ses enregistrements, il y avait au départ une difficulté. C'est qu'on ne pénètre pas comme ça, quand on est blanche, femme, même accompagnée de son fils, dans un milieu noir, qui est quand même, à l'époque, victime ou soi-même raciste, je sais pas. Mais en attendant, c'est pas bien vu. Donc il fallait avoir quelqu'un qui vous introduisait. Et c'est le rôle que va jouer Fred Bellow. Il va l'aider à rentrer en contact avec tous ces musiciens.
Et également à pouvoir travailler dans ces quartiers-là, qui ne sont pas faciles. Voici donc, une fois de plus, l'Europe en train d'aller faire découvrir au public américain ses propres formes d'art. C'est pas nouveau. Et ça, nous y reviendrons dans une autre émission, parce que je trouve que la production des disques de Marcel Morgantini mérite largement d'être évoquée à part. Là, on va se contenter des hommages qui lui ont été faits. Et, naturellement, le morceau que tout le monde a pensé à lui jouer, c'était d'ailleurs jamais le même, je suppose, c'était improvisé à chaque fois, mais sous le même titre, c'était...
Blues for Marcel.
Ah, évidemment.
Vous allez l'entendre d'abord par le trio The Aces, ça veut dire les As.
Là, le batteur est Fred Bellow, justement, le fameux.
Le fameux. Et puis ensuite, ce sera Milt Buckner et toujours Blues for Marcel.
Milt Buckner qui était également un ami très proche de ce couple.
Yeah. Stop it all. Call Blues for Marcel.
I don't know nobody named Roger.
Thank you.
Mais vous savez, dans la vie, il n'y a pas que la musique. Avec une Marcel Morgantini, il y avait aussi la cuisine. Qu'est-ce qu'elle faisait bien, la cuisine ? Au point que les musiciens se régalaient chez elle, en particulier, bien sûr, du cassoulet. Cassoulet national.
Cassoulet. Ben oui, en plus, on est en plein pays du cassoulet. Et c'est très proche, dans l'esprit, du plat emblématique des Noirs américains des États du Sud, qui est le fameux haricot rouge et riz.
Red beans and rice.
Ça revient dans une foultitude d'histoires. Il n'y avait pas que Fred Bilot dans les relations de Jacques et Marcel Morgantini. L'ambassadeur numéro 2, c'était un guitariste qui s'appelait Jimmy Dawkins. Alors voici Jimmy Dawkins à l'œuvre dans un blues qui s'appelle
Marcel Morgantini's Cassoulet.
Thank you.
Nous avons vu le père, la mère et le fils, bien sûr.
Mais il manque quelqu'un.
Il manque quelqu'un. Eh bien oui, c'est le chien. C'est le chien qui s'appelle Virgile. Et Virgile, il est amoureux de la musique de jazz. Dès qu'elle arrive, la musique, il remue la queue et c'est la joie. Formidable, non ?
Nous allons conclure par cet épisode canin, cet hommage à Jacques Morgantini, récemment disparu, et également à son épouse Marcel, qui, elle, nous a quittés en 2007, il y a déjà très longtemps. Ils laisseront vraiment l'un et l'autre une trace dans le jazz, dans le blues surtout, et une trace dans l'histoire du jazz français, qui est toujours une aventure, comme chacun sait. Enfin, voici maintenant, par Billy McKell, l'inamovible guitariste de Lionel Hampton et ami de la famille, voici dédicacé au chien Virgile, un morceau qui s'appelle
« Rolling for Virgil ».
Vous pouvez aboyer. Thank you.
C'était La Planèse du Jazz.
À la planète prochaine.